réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le mercredi 27 avril 2016. 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, 30 ans après l'accident nucléaire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Tchernobyl même? C'est le thème de notre série en compagnie du photographe Alain-Gilles Bastide qui s'est rendu sur place 20 ans après l'accident. Dans un instant, le troisième épisode, et on parlera des gens de Tchernobyl, les gens qui vivent sur place mais aussi les déplacés. En deuxième partie, comme tous les mercredis, l'actualité du cinéma, et aujourd'hui Nassima Guessoum, documentariste pour son premier film qui sort aujourd'hui, 10 949 femmes. On en parle tout à l'heure aux alentours de
6h15. В лесе зимовала, в лесе зимовала.
Paysage de Tchernobyl, 30 ans après, avec Alain-Gilles Bastide.
Что ты там робила, что ты там робила?
Aujourd'hui, les gens de Tchernobyl. Première rencontre avec les gens.
Première rencontre avec les gens. Les gens de Tchernobyl, village ou des zones dans lesquelles je suis allé, il y en a pas beaucoup en fait. Quoi. Des autochtones, des gens qui vivent là, ils ont tous été évacués et envoyés ailleurs. Alors ceux qui sont là-bas sont des gens, soit surtout à Tchernobyl village, comme je vous disais, qui est un peu la base, le centre où sont à peu près évaluées 3000 personnes qui tournent là 15 jours par 15 jours
et qui travaillent tous
sur la zone, voilà, pour la zone, pour l'entretien et soi-disant le nettoyage et pour parer au quotidien des choses. Donc il y a ces gens-là qui sont pas des gens de Tchernobyl mais qui sont des gens à Tchernobyl. Il y a peu d'autochtones qui sont là. Il y a quelques gens qui seraient, alors là, moi je les ai pas rencontrés, j'ai essayé d'en rencontrer, mais j'ai pas arrivé, qui seraient revenus, trois ou quatre vieilles personnes âgées qui ont pas voulu partir et qui seraient revenus, qui sont toujours là-bas, qui se cacheraient quelque part dans les bois et qui vivraient là-bas. Et on parlait même d'un jeune couple qui serait revenu, qui serait caché dans les bois, et au moment où j'y étais, avec un enfant qui venait de naître. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, non pas pour en faire un scoop pour Paris Match, mais parce que je me disais, merde, c'est quand même un enfant qui naît là où l'homme n'a pas le droit de vivre, quoi. Donc c'était quand même assez intéressant de regarder de plus près, quoi.
Mais vous êtes rendu à Tchernobyl 20 ans après la catastrophe, et à cette époque, les autorités ukrainiennes étaient plutôt dans une optique de faire revenir les gens, de leur dire que finalement la vie a repris ses droits, vous pouvez revenir vivre à Tchernobyl, vous pouvez vous installer à Tchernobyl.
Oui, c'est exactement ça. Ils ont essayé de faire durer presque dès le départ, peu de temps après l'accident, en fait.
Ça n'a pas marché?
Pas vraiment, un peu, je saurais pas dire dans quelle proportion. Là, il faudrait voir les données actuelles. Le professeur Bandajewski qui travaille là-bas depuis un an à peu près dans un village qui est situé entre Kiev à peu près et Tchernobyl, qui s'appelle Ivankov, et qui lui conduit maintenant des études sur le terrain. Qui était là-bas donc au départ et qui pourrait avoir un avis vraiment sur l'actualité aujourd'hui, comment ça se passe. Mais des informations que j'ai, en tout cas moi, il n'y a pas de mouvement de repopulation de population qui reviennent. Il y en a forcément, vu l'état du monde, la misère, les migrants, ceci, cela, puis des gens qui veulent se cacher et tout. Bon, il y a des gens qui reviennent. Il y avait déjà, dans 20 ans, vous voyez, des villages, justement, abandonnés, qui étaient voués à être enterrés, qui l'ont pas été, où vous voyez une maison complètement vide et à côté une maison avec des gens qui vivaient dedans. Pourquoi ? Parce que bon, ils ont mesuré que cette maison-là était absolument inhabitable, mais celle qui est à côté, elle était pas trop chargée, on pouvait y vivre. Donc il y a de nouveau les gens qui se mettent comme ça, parce que la contamination par radionucléides se fait comme par tache de léopard, si vous voulez, c'est un peu qui est appelé comme ça. Donc c'est vous avez un terrain, c'est comme une ou alors un champ de blé, vous savez, après quand on voit en passant sur la route un champ de blé avec du blé couché après un orage, il est couché ici et à côté il est debout. Ben c'est un peu ça l'image de la contamination nucléaire. Donc on a quoi mesurer et bon bah là on peut être là, il faut surtout pas y être, mais à quelques mètres de différence. Vous pouvez manger des champignons ici, 5 mètres après, il faut surtout pas y toucher quoi. Donc il y a cette population de gens, je dirais miséreux, des gens qui ont pas des gens des pauvres qui reviennent quelques-uns, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui prenne. Pourtant toute la propagande est basée là-dessus. Depuis le début, et maintenant, elle est bon, il faut revenir, regarder la flore, elle est resplendissante, regarder les animaux, comme ils sont beaux, etc., etc. Et là, on voit le gigantisme de la végétation, on l'apprécie davantage, par exemple, à Pripyat, même justement à la ville, où vous avez des ouais. immeubles de 6 étages avec des arbres qui, au départ, sont des arbres qui sont prévus, gérés par la nature pour avoir 5-6 mètres de hauteur, et là, qui arrivent presque sur les toits à 6 étages plus haut. Alors après, qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est un terrain abandonné, c'est un terrain de pour la mafia, c'est quelque chose de fantastique, quoi. Donc, vous avez, parce que personne n'y va, on peut pas y aller comme ça, et quand on y va, ceux qui sont là-bas sur les postes de contrôle ou sur bon c'est facile à contrôler ce qui se passe, et qui c'est qui contrôle ça, c'est le pouvoir mafieux, quoi. Et la mafia qu'on pourrait appeler la mafia de Tchernobyl, de la zone, qui va couvrir quoi, qui a couvert déjà tout le pillage de la zone au niveau de tout ce qui a été sorti de ces zones-là, de Pripyat, des villages évacués avant qu'ils soient enterrés, etc. Et qui revendent ça dans des marchés. Moi, je cite dans mon livre des anecdotes absolument, c'est de l'horreur, quoi. Où à Pripyat, ils ont pris justement plein de peluches d'enfants, etc., que vous trouviez ensuite revendues sur des marchés dans d'autres endroits de l'Empire. Quand on sait que les radionucléides que les peluches concentrent spécialement le radionucléide, c'est absolument dégueulasse, mais des pyjamas, des trucs. Bon, il y a l'anecdote de ce gars qui achète un chapeau et qui, à un moment donné, quelques semaines après, a des céphalées très 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 aiguës, etc., qui se voit le toubib, etc. Bon, rien, ils comprennent pas d'où viennent les migraines et qui meurt quelques semaines après d'un cancer fulgurant au cerveau, quoi. Je veux dire, ça c'est pas des c'est des choses, bon, d'histoires comme ça on en récolte plein.
Je transporte le lait avec mon cheval. Ils doivent le contrôler.
Les habitants, les paysans, c'est les éternelles victimes des seigneurs de la guerre, comme toujours, de tout temps. C'est les paysans des lieux qui vivent dans un territoire splendide de beauté, qui a cette particularité qui n'est pas le territoire riche, fertile, par exemple, des terres noires de l'Ukraine, qui est plus au sud, mais ce sont des forêts, ce sont des cours d'eau, des lacs, des étangs, où depuis toujours la tradition est de se nourrir de champignons, de baies des bois, de poissons, de chasse.
Vladimir Tcherkov.
Poison. Le champignon est un absorbant comme une éponge de cette radioactivité. La plupart des gens qui souffrent, dont tous les organes vitaux sont attaqués par le césium, non seulement comme radioactivité, mais comme élément toxique également, qui désintègre les tissus constitutifs des organes vitaux de l'organisme. Eh bien, ces gens sont obligés de continuer à vivre de ce qu'ils ont sous la main, parce qu'il n'y a pas, on leur envoie pas évidemment des aliments propres.
Et pour en revenir à la mafia, à un moment donné, je sais pas si vous avez certainement entendu parler de la chose, la propagande et les informations disaient qu'ils avaient trouvé le moyen de décontaminer les sols là-bas en plantant, je vous le donne en mille, du chanvre. Parce que le chanvre aurait la capacité de nettoyer le terrain. Il faut vraiment prendre les gens pour des cons. En réalité, alors bien sûr vous allez me dire, bah oui, mais la preuve, etc. Et tout. Moi non, on peut pas. La preuve, preuve de quoi? Allez là-bas, allez voir, allez essayer de passer des drones sur ces étendues géantes de chanvre aux vertus décontaminantes du terrain, et zoomer bien dessus pour essayer de voir si c'est du chanvre avec lequel on fait les ficelles ou de celui qu'on fume. Bon, il y a le trafic des peaux d'animaux, de la viande, le trafic de l'acier. Guillaume Herbault, je le recite, a fait un livre La Zone, il a travaillé ça, mais il a pris beaucoup de risques pour travailler ça, où il fait apparaître que dans la zone même, dans la plante nucléaire évacuée, tout est fermé, il y a des ateliers pas très loin, à 150 mètres du réacteur explosé, du sarcophage, 200 mètres du sarcophage, il y a des ateliers où on trafique l'acier, où on découpe l'acier, où il y a des gars qui travaillent dans des environnements où ils ne devraient pas être, avec des taux de radioactivité absolument énormes, sans aucune protection, les mecs, torse nu, sans masque, ils découpent de l'acier, l'acier est foutu sur des camions, il sort de la zone, au mec qui contrôle, il prend 100 € et puis il est tranquille, vous sortez 40 tonnes d'acier comme vous voulez. C'est comme ça que le grand cimetière, dont le nom là tout de suite m'échappe, mais qu'il faut... Les gens qui sont, enfin, qui tout le monde connaît ces grands, comme un fleuve de d'hélicoptères, de camions, etc. Bon, d'acier contaminé qui était énorme. Bah, il s'est réduit à peau de chagrin. Où il est où cet acier? Il a été recyclé, remélangé dans de l'acier normal. Quelques années après, l'Europe a même fait un décret comme quoi on pouvait mélanger dans une certaine proportion de l'acier contaminé et de l'acier normal. Donc, c'est un territoire de mafia.
Les gens sur place souvent m'ont dit, à un moment on rencontre sur une place un groupe de paysans bloqués dans cette situation, angoissés, des mères de famille, dans l'ignorance la plus complète. Jamais, ils n'ont même pas l'instruction suffisante pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un atome, qu'est-ce que c'est qu'un radionucléide, etc. Pour eux, c'est de l'invisible, c'est de l'atrocement menaçant, et qui sont totalement désemparés, et qui disent, vous venez, vous nous regardez comme dans un zoo, vous repartez. Et vous
Le vice-secrétaire du parti s'est enfui. J'ai 62 ans. Je me suis évanoui. Je n'ai pas de quoi manger.
J'ai rencontré, par exemple, dans mes péripéties, disons, le chemin que je m'ouvrais au fur et à mesure.
Dans votre séjour de trois semaines à Tchernobyl.
Dans la zone, oui, dans les zones évacuées. J'ai rencontré Yuri Badadjeski qui sortait de prison, du goulag où il a été enfermé pendant 5 ans. Il était depuis 3 semaines en résidence surveillée. Un peu le hasard du chemin a fait que je le rencontre, lui, à Minsk, chez lui, dans son
HLM. Pourquoi il était en prison ?
Il était en prison parce que il a dénoncé les effets de la radioactivité par l'absorption par la chaîne alimentaire des radionucléides, alors que tout fonctionne. La référence était jusque-là Hiroshima, si vous voulez. Bon, comment on est contaminé par les radionucléides, c'est bon, non, mais c'est pas du tout la même chose. Sur Hiroshima, la bombe, elle a explosé. Après, on a pu reconstruire Hiroshima ou Nagasaki. Là-bas, c'est pas pareil. Ça passe par la chaîne alimentaire, c'est-à-dire la terre qui est polluée, puis voilà, là, les plantes, etc. Et puis toute la chaîne. Donc lui, il a fait apparaître ça et apparaît l'énormité de la chose, et il a été mis de côté. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est pas. Il y a aucun danger ici, rien ne s'est passé, on peut revenir vivre ici, on en revient là et tout. Bon, ce type, il a pas voulu. C'est lui qui a accepté d'aller à Gomel. Gomel, une ville très contaminée, qui était impossible à évacuer. Donc, il avait tout autour, ça avait été évacué, mais Gomel non, comme par hasard. Et lui, il est allé former là-bas, monter l'institut de Gomel pour former parce que tout le monde est parti, tout le monde était parti, personne. Les gens qui avaient de l'argent, ils sont partis avec la caisse et tout. Mais bon, voilà, ils ont laissé les gens, sur place, les gens qui pouvaient pas partir. Et Badadjeski, lui, est allé là-bas. Il a monté son institut, formé des gens, etc., etc., fait des études de ce qui se passait et les résultats de ça qu'il voulait dénoncer, ben on lui a dit non, ça il faut se taire. Et lui a pas voulu se taire. Et donc à un moment donné, on l'a forcé à se taire, on l'a foutu en prison, on l'a accusé de corruption, de ceci, de cela, enfin tout le circuit.
Est-ce que vous vouliez aussi rencontrer des gens qui étaient là sur place ce 26 avril 1986?
Oui, alors j'ai rencontré les épouses des deux premiers pompiers. Dont parle Zveltana Alekseevitch dans son livre, et moi je parle aussi là dans le mien, ce premier pompier Chichenok qui à 1h30 du matin a été averti, viens à la centrale, il y a un incendie, et qui s'en va à l'incendie en disant à sa femme, on m'appelle, il y a un incendie, j'y vais, ferme le fenestrou là, et puis tranquille, je reviendrai bon à demain matin. Le lendemain matin, il était le mec complètement cramé, consumé par l'atome. C'était devenu un déchet atomique. Alors il y a une notion très importante, un truc que j'ai là-bas qui rencontré. J'avais pas trop prévu ça non plus dans ma préparation du voyage. C'est que là-bas, quand on meurt, c'est pas. Pas qu'on devienne un mort comme on a l'imaginaire chez nous. Non, on est un déchet atomique. On sort tout d'un coup. Tout est déchet atomique. On devient soi-même un déchet atomique. Et le gars, le pompier là, le matin, il était bien sûr inapprochable. C'était un déchet atomique dans sa chambre. Il était tellement chargé de radioactivité que il balançait la radioactivité tout autour. Lui et les pêcheurs qui allaient pêcher le matin près du Neps et qui revenaient, c'était des piles. C'était des déchets. Ils ont été enterrés à 8 mètres sous terre dans des boîtes en plomb, etc. Donc ça c'est assez assez spécial de rencontrer ça. Enfin ça remue.
Enfin vous avez rencontré donc la veuve de.
Donc j'ai rencontré la veuve de ce premier pompier et du deuxième de Titonok. Je les ai rencontrés à Kiev. Elles ont été relogées dans des. Ils ont construit des grands immeubles à Kiev. Ils ont même construit des villes nouvelles pour accueillir toutes les personnes déplacées. Et j'ai rencontré ces dames-là, et en particulier Luisa, la femme du deuxième pompier, qui a pendant 2 heures raconté en détail qu'est-ce qui s'est passé sur le moment. Quoi. C'était les étudiants avec qui j'étais. Il y avait 2 étudiantes. Elles pleuraient carrément.
Quelle est la mémoire de ces gens qui ont vécu sur place la catastrophe de Tchernobyl, et comment représenter tout ça, comment prendre en photo ce danger invisible 30 ans après la catastrophe? Vous nous raconterez Tout ça demain dans le quatrième épisode de notre série Paysages de Tchernobyl, 30 ans après. Merci Alain-Gilles Bastide, à demain.
À demain.
Да была земля не свинцовная, да были люди не хрещеные, не веровали Господу Богу, а веровали лихому цмоку. Давали цмоку, что день по броку, что день по броку по человеку. Ой, цардачку злото убирает.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Mon invité aujourd'hui est Nassima Guessoum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes documentariste et votre premier film sort aujourd'hui dans quelques salles. C'est un documentaire. Il sort dans quelques salles. Si vous voulez savoir très précisément dans quelle salle, vous pouvez voir 10 949 femmes. C'est le titre du film. Reportez-vous à la page de l'émission Un autre jour est possible, disponible sur franceculture.fr. 10 949 femmes. Le titre est intrigant, mais on apprend tout de suite qu'il s'agit du nombre de femmes algériennes qui ont participé à la lutte d'indépendance de leur pays. Vous avez décidé de suivre une femme qui les représente bien, Nassima Hablal, qui porte le même prénom que vous. Peut-être que ça a beaucoup joué dans le choix. En tout cas, elle a l'impression que c'est un élément qui a installé une complicité. Et donc, vous avez filmé les dernières années de cette femme qui est une héroïne un peu oubliée de la révolution algérienne. Mais d'abord, pourquoi s'intéresser à la guerre d'Algérie? Vous, Nassima Guessoum, vous êtes jeune, je suppose que vous êtes française d'origine algérienne.
Oui, c'est ça. Enfin, je suis franco-algérienne. J'y tiens particulièrement parce que, comme mes parents y tenaient, enfin mon père en particulier, j'étais algérienne jusqu'à 20 ans, quoi. Donc,
vous êtes née en France.
Je suis née à Paris. J'ai grandi en France, mais voilà, c'était quelque chose qui était important. Donc, j'avais un passeport vert jusqu'à 20 ans, et puis à 20 ans, j'ai fait mes papiers français. Là où j'ai découvert d'ailleurs qu'il fallait que j'ai un certificat de nationalité française pour être française, je pensais que c'était un acquis. Donc voilà, ce martèlement de « je suis algérienne avant d'être française », il a été très présent dans mon éducation. Et du coup, j'ai fait des études d'histoire et je me suis spécialisée dans l'histoire du monde arabe. Et au moment de faire ma maîtrise, je me suis orientée vers la guerre d'indépendance algérienne et l'histoire de l'Algérie postcoloniale en fait. Voilà, juste les premières années de l'indépendance de l'Algérie. Et puis après des petits stages dans le journalisme, je disais que j'étais pas contente, enfin c'était pas ça que je voulais faire, et on m'a dit non mais ce que tu veux faire ça s'appelle du cinéma documentaire, donc j'ai repris des études et voilà, j'ai fait du cinéma documentaire, j'ai étudié le cinéma documentaire, puis j'ai vécu un an à Alger en 99, et en fait c'est là que j'ai eu vraiment envie de faire du cinéma, donc voilà, l'intérêt pour l'Algérie, la guerre d'Algérie, il est lié à plein de choses quoi, une histoire personnelle.
En prison, les parents l'appelaient la passionnaria. Nassima Hablal, c'est vraiment un personnage avec une histoire, avec un caractère, avec un charisme. On a l'impression que vous avez fait un casting avant de tomber sur cette héroïne, sur cette femme parmi tant d'autres femmes qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie.
Alors de manière très étrange, bon, je me suis d'abord appuyée sur des travaux écrits. J'ai cherché de la documentation. Je vais vous faire un peu le compte à rebours de tout ça. C'est qu'en 2004, vous avez le film de Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger, qui est sorti sur les écrans, puisqu'il était interdit jusqu'en 2004, pendant presque 40 ans. Et donc, c'est un film qui a été réalisé par un Italien et qui raconte la bataille d'Alger, tourné avec un des protagonistes réels de la bataille d'Alger,
Yassef
Saadi. Et voilà, donc j'ai découvert ce film sur Arte, je crois, ou au cinéma, je sais plus. Et c'est la première fois, moi j'avais accès aux livres d'histoire en France, et c'était la première fois que je voyais en fait comment les femmes étaient représentées. C'est-à-dire que Et du coup, j'avais une espèce de... Voilà, je les découvrais. Et c'était essentiellement des femmes, en fait, qui faisaient partie de commandos de choc. Donc, qui commettaient des attentats. Donc, à partir de là, j'ai été chercher des bouquins. Et je me suis rendu compte que celles qu'on appelait les fidailles, en fait, elles représentaient 1% des 10 949 femmes en question. Et je me suis donc intéressée aux autres. Et dans la thèse que j'ai lue de Jamila Mranmin, je voudrais vraiment... C'est pas un hommage, mais... Enfin, il faut valoriser son travail parce qu'il est unique. Ben, on parle de plein de femmes. Et Nassima, en fait, elle est toujours citée par des autres, Nassima Ablal. Mais elle est jamais... Elle a pas d'entretien. Alors qu'il y a 80 entretiens, elle est toujours évoquée. Donc elle est pas présente non plus. Enfin, elle est toujours en arrière-plan. Et ce qui m'a intéressée chez elle, pourquoi je l'ai recherchée dans un premier temps, c'est parce qu'elle faisait partie des femmes en fait qui se sont inscrites dans les premiers mouvements nationalistes, c'est-à-dire vraiment avant la révolution, elle s'inscrivait dans des partis politiques, dans ce qu'on appelait le PPA à l'époque, le Parti du Peuple Algérien. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui avait vraiment un engagement qui remontait à avant les événements entre guillemets, avant l'action, et voilà, pour voir toute la distance d'un parcours politique. Et c'est vrai que j'ai fait un casting, entre guillemets, parce que l'idée, c'était qu'il fallait... moi, j'avais en fait deux problèmes. Je voulais pas rentrer dans quelque chose d'agiographique qui allait ressembler, si vous voulez, au roman national algérien. Et je voulais pas rentrer non plus dans la manière dont la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on dit en France, est racontée. C'est-à-dire à travers des images d'archives, des sigles, des grandes dates, les noms des politiques. Moi, je voulais savoir qui il y avait derrière FLN. C'était des gens et je voulais que les gens se racontent. Donc il fallait trouver quelqu'un qui avait vraiment envie de ça et qui pouvait, qui pouvait en fait, fallait qu'elle ait envie de se raconter comme ça et donc elle dépasse quelque chose, parce que le FLN c'est collectif, donc il n'y a pas d'individu derrière, c'est un seul héros, le peuple, donc fallait qu'elle dépasse tout ça. Et puis fallait que ça marche entre nous, parce que l'idée c'est voilà, moi je suis troisième génération, je suis de l'autre côté de la Méditerranée, mes parents ne me racontent pas cette histoire-là, je vais aller la chercher ailleurs. Et donc c'est la figure d'une grand-mère. Donc il faut que elle m'accepte comme une petite fille spirituelle comme ça, et qu'elle ait envie de cette transmission-là. Donc il fallait, oui, dans le casting, quelqu'un qui a envie de raconter comme il raconterait à quelqu'un de la troisième génération en fait. Je voulais raconter donc voilà son parcours, son engagement politique et vraiment la force qu'animaient les gens, parce que c'est sur la durée. Elle explique à un moment qu'elle a milité presque 17 ans en fait. Sans rester justement juste dans l'image de l'héroïne, c'est qu'elle est déçue très tôt. Elle est déçue pendant la guerre, hein. Elle parle de l'assassinat d'un des chefs qui est pas très mis en avant, on va dire, d'un point de vue historique. Enfin, en Algérie, c'est complètement occulté, mais en France, il fait pas partie quasiment des livres. C'est Aban Ramdan, qui est, voilà, un des leaders politiques et un penseur, en fait, de la révolution algérienne. Et à partir du moment où il y a des luttes fratricides, cet homme-là est assassiné et c'est à partir de là que quelque chose s'écroule pour elle. Donc, l'indépendance, la manière dont l'indépendance est gérée, les gens qui prennent le pouvoir, sont une suite logique pour elle. Mais vraiment, c'est, oui, il y a un abattement qui est antérieur, mais il est encore plus fort. Voilà, donc je voulais pas la priver aussi, c'est-à-dire cette femme-là, en fait, de sa parole politique. C'est-à-dire son point de vue, même sur un déroulement, quoi.
Merci d'être passé ce matin. Comme Merci. Tous les invités d'un autre jour, je vous laisse le soin de faire le générique de fin.
Alors, c'était un autre jour et possible, une émission de Toufik Hakem, préparé avec la collaboration d'Anaïs Isebert et Pascaline Monet. On peut s'abonner au podcast de cette émission en passant par le site franceculture.fr. Un autre jour est possible est réalisé par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Claude Niort.
Merci beaucoup, Nassima Guessoum. On se retrouve demain à la même heure pour la suite de notre série Paysages de Tchernobyl 30 ans après, en compagnie d'Alain Gilles Bastide. Et en deuxième partie, je vous parlerai d'une exposition qui se tient en ce moment autour d'une photographe, Laure Kruger. Bonne matinée sur France Culture.